Sur les sentiments du chrétien. Et aujourd'hui, le sentiment que j'aimerais que l'on examine ensemble, c'est la peur. La peur, la crainte, l'angoisse. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. J'aimerais parler de la peur, mais une peur, il y a une peur salutaire. C'est cette peur qui vous garde de tomber dans le haut d'une falaise. Ou il y a celle qui vous garde, la peur qui vous garde les mains dans les poches quand vous êtes en train de vous promener aux eaux et que vous approchez de la cage des lions. Il y a des bonnes peurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas de celle-là dont je voudrais parler. Celles-ci, ces peurs-là sont salutaires et grâce à ce sentiment de crainte, au fond, le Seigneur nous garde de nombreux dangers. Par cette mesure, cette émotion, on est en mesure d'échapper à beaucoup de blessures et de graves dangers. Elle fonctionne un peu comme la douleur. Heureusement que parfois on est capable de ressentir la douleur parce que si vous étiez en train de vous asseoir sur la plaque chauffante, il ne faudrait pas y rester trop longtemps quand même. Donc la douleur nous avertit d'un danger plus important. Mais il y a des peurs qui nous conduisent à avoir un comportement complètement irrationnel, un comportement insensé. Vous avez déjà vu, sinon en vrai, au moins dans les films ou dans les dessins animés, une dame grimper sur une table en une fraction de seconde parce qu'elle a perçu une souris. Petite souris, on se demande qui a eu plus peur. Généralement, c'est la dame. Mais ça, ce sont des peurs complètement irrationnelles. Certaines peurs vous gardent captives, vous enferment. Il y a ce qu'on appelle l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Des gens qui sont atteints de cette peur-là ne sortent pas de chez eux. Ils restent cloîtrés, ils ont peur de rencontrer la moindre personne. Il y a des peurs qui nous paralysent. Il y a des peurs qui nous font perdre tous nos moyens. Et déjà, je me suis renseigné sur les peurs ces derniers jours. Alors, il y en a une, ça s'appelle la glossophobie. C'est la peur de parler en public. Ceux qui connaissent cette peur-là, ils perdent tous leurs moyens. Ils ont des choses à dire, ils sont incapables de les dire parce que, voilà, ils sont pris par cette peur. Ça nous handicape. Un médecin a dit, la peur est la puissance la plus destructrice qui soit. Et je veux bien croire. On peut avoir des phobies de tout. Il y a l'acluophobie, ça c'est la peur de l'obscurité. La coulrophobie, ça c'est la peur des clowns. Alors, apparemment, vous n'êtes pas tous atteints. Il y a la xénophobie, ça on en parle souvent, la peur générale des étrangers. Il y a la misophobie, ça c'est la peur de la saleté, de la contamination par les microbes. Alors ça donne des tocs, vous savez, les gens qui se... Il y a la nosophobie, la peur des maladies. J'en ai trouvé une autre intéressante, c'est la plangonophobie. Ça, c'est la peur des poupées. Des poupées. Il y a aussi une bien répandue, l'aviophobie, la peur de l'avion. Il y a des peurs... La claustrophobie, bien sûr, la peur des espaces confinés. L'arachnophobie, ça c'est la peur des araignées. Vous connaissez ça? La musophobie, ça c'est la peur des souris ou des rats. Alors là, celle-ci, elle est pas mal non plus. C'est la phobophobie. La peur de la peur. La peur d'avoir peur, la peur d'être surpris. Il y a aussi, bien sûr, la pantophobie, ça c'est la peur de tout. Il y en a toute une liste. Peut-être que je n'ai pas touché les vôtres là, parce que vous rigoleriez pas comme ça. Mais sans cesse, ce sentiment-là de la peur, on le connaît parce que l'homme est dans sa crainte, parce que sa vie, ses biens, ses êtres chers, son environnement sont menacés. La peur peut se manifester par des tremblements, une hausse de la fréquence cardiaque, un écarquillement des yeux et une perturbation du rythme respiratoire due à la sécrétion d'adrénaline qui est la principale hormone de la peur. Dans certains cas, une peur soudaine peut provoquer le besoin de pousser un cri. Vous connaissez ça, hein ? La peur peut aussi nous provoquer une paralysie momentanée, partielle ou complète, allant jusqu'à une perte de conscience. Il est aussi avéré qu'une peur violente peut provoquer la perte des cheveux pigmentés, ne laissant apparaître que les cheveux blancs, ainsi qu'un léger changement de couleur de peau, qui explique probablement l'expression d'être blanc de peur, vert de peur. On dit aussi que la peur provoque l'horripilation des poils, plus prosaïquement appelée la chair de poule. Dans les cas extrêmes, la peur peut aussi relâcher les muscles du bassin, provoquant ainsi l'évacuation de l'urine et parfois même du bol fécal. Ça, on a un petit mot qui nous en est dit dans Daniel, chapitre 5 et verset 6. Hein, c'est le roi Belshazzar. Vous connaissez ce passage-là où il y a une main qui commence à écrire sur un mur. Peser, peser, compter, diviser. Et quand Belshazzar voit cette main écrire sur son mur, alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins, ça c'est la poésie biblique, hein, se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il y a quelques expressions populaires qui décrivent ce genre de choses comme ça. Je vous les citerai pas. Enfin, la peur provoque chez l'homme, comme pour la plupart des mammifères, une puissante activité hormonale qui peut provoquer le dégagement par la peau d'une forte odeur, hein, qui est due à une hyperactivité du système sudatif créant ce qu'on appelle les sueurs froides. Vous voyez ? Bon, maintenant vous savez tout sur la peur. Et j'aimerais lire avec vous un texte maintenant quand même. En 1 Samuel, chapitre 17, un texte que vous connaissez bien, mais il me semble que on peut apprendre beaucoup de choses sur ce texte, sur la peur. 1 Samuel 17, c'est la bataille entre David et Goliath. 1 Samuel 17, je vous propose de lire plusieurs versets, versets 10 et 11. Et on ne va pas lire tout le passage qui est assez long, mais on va lire plutôt quelques extraits. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16, « Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Vous vous souvenez de ce géant Goliath, hein, immense, armé jusqu'aux dents, et il défiait toute l'armée d'Israël. Verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent de devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Je lis jusqu'au verset 40. « Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Voilà une victoire. Je suppose que David devait avoir à peu près peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Il est dit, hein, Saül lui dit, tu es qu'un enfant, tu ne vas pas aller te battre. Il n'avait pas l'âge d'aller se battre. Donc, à mon avis, il n'avait pas plus que cela. Et il a terrassé ce géant. Il a terrassé ce géant devant toute une armée qui était pétrifiée, terrorisée. Les expressions qui parlent de la peur ici, elles sont c'est que des superlatifs qui montrent combien il y a une grande détresse dans tout le peuple. J'aimerais qu'on regarde d'abord l'origine de nos peurs et ensuite essayer de voir la victoire sur nos peurs. Comment avoir la victoire sur nos peurs? L'une des premières choses, je pense, que je voudrais relever en tout cas, qui nous cause la peur, c'est l'ignorance. Pourquoi il y a de la xénophobie? Souvent parce qu'il y a de l'ignorance par rapport à un peuple. Ici, il y a de l'ignorance par rapport à ce géant. On n'a jamais vu un gars comme ça. Mais il a 1 ou 1,50 m de plus que les autres. On n'a jamais vu une lance comme la sienne. Et c'est ça qui les terrorise. Si vous ne faites pas la différence entre une mygale et une araignée inoffensive, totalement inoffensive, vous nourrirez une peur terrible. Mais une peur par ignorance. Renseignez-vous sur 50 000 espèces répertoriées d'araignées. Seules une demi-douzaine sont dangereuses pour l'homme. Et aucune ne vit en France. Ça veut dire que parfois, c'est par ignorance qu'on nourrit des peurs. Il y a aussi une autre origine, je pense, c'est les traumatismes. Hein, si vous avez été mordu par un chien, vous êtes refroidi avec la jambe canine. Si vous avez eu un accident de la route, ça vous pose un problème de monter dans une voiture ou de voir vos enfants monter dans une voiture. Si vous avez été abusé sexuellement, toutes les relations sexuelles deviennent terrifiantes pour vous. Et donc, on a besoin de faire face à ces choses-là. Il y a aussi des peurs qui sont simplement héritées. De la même manière que la foi est contagieuse, la peur l'est tout autant. Et parfois, on transmet la peur, nos peurs, à nos enfants. Simplement parce qu'on veut les surprotéger par rapport à une chose. En 1 Samuel 17, là, au verset 24 et 25, j'ai pas lu, je crois, le verset 25, mais il est dit, « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. » Et alors chacun se disait, « Mais tu as vu sa taille ?» Et puis alors ça circulait, « Mais on n'a jamais vu ça !» Et chacun se transmettait la peur. Il y a aussi des peurs qui proviennent de la superstition. J'ai trouvé une peur, je vais essayer de vous la lire. Son nom scientifique, c'est la parascevidecatriaphobie. C'est la peur du vendredi 13. Ça, c'est les superstitions. Des choses qui sont sans fondement, à quelles on attribue des valeurs particulières. Les chats noirs sont mal vus. Les échelles ou les miroirs cassés, on nourrit des peurs stupides à cause de certaines choses. Cette semaine, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame, une sophrologue. Et cette sophrologue, elle était sous l'emprise d'une autre sophrologue psychothérapeute. Et elle se faisait trembler l'une et l'autre. Et celle qui m'appelait, elle était inquiète. Elle me dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver parce qu'elle dit que je lui dois de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. Et elle me dit, mais si tu ne me payes pas, alors, comment elle m'a dit ça, les puissances cosmiques te le feront payer. Alors elle me téléphonait paniquée, qu'est-ce qui va m'arriver ? On peut attribuer toutes sortes de choses, de peurs, poser nos peurs sur toutes sortes de choses qui ne sont pas réelles. Il y a des dangers quand même dans les choses démoniaques. Hein, et ça, c'est des peurs réelles qu'on ferait bien avoir. Mais je crois que la première cause de la peur, c'est le péché. C'est le péché. La première fois qu'un homme a eu peur, c'est Adam. C'était juste après avoir péché. C'est le péché qui a engendré la peur chez Adam. Adam répondit en Genèse 3, verset 10 à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est ici la première mention de la peur. Et c'est souvent très significatif, la première mention d'une chose dans les Écritures. C'est vraiment son sens. La peur a été engendrée par le péché. David dit dans le psaume 38, verset 19, « Car je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et c'est ça qui nous produit, qui provoque dans nos cœurs de la peur. Le péché provoque en nous la peur, la crainte du jugement et de la mort. Tout en nous nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes déchus. Nous avons offensé Dieu. Et ce qui fait que cette peur nous domine, elle est au mieux latente, on arrive à la ranger dans un coin de notre cœur, mais elle se réveille à la moindre occasion, lorsque des difficultés personnelles, professionnelles, des problèmes de santé nous fragilisent, alors l'angoisse et la peur reviennent. L'un de ces péchés, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité engendre la peur. lorsque les disciples étaient sur la barque et que le Seigneur dormait à la poupe et qu'il y avait eu cette tempête terrible, les disciples ont crié « Seigneur, sauve, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Gens de peu de foi. Et à plusieurs reprises, le Seigneur a repris ses disciples qui avaient une peur. Il dit « Gens de peu de foi !» Notre incrédulité provoque des peurs. Le Seigneur avait dit « Passons sur l'autre rive » Qu'est-ce qui pouvait leur arriver ? La peur aussi engendre la peur. Plus vous évitez les chiens, et plus vous en aurez peur. Plus vous évitez les gens, et plus vous aurez peur des gens. Et vous voyez que ce n'est pas les chiens ou les foules qui engendrent vos peurs, puisque vous les évitez, mais que votre peur s'accroît quand même. Nous fabriquons nos peurs, nous entretenons nos peurs. C'est pourquoi il nous faut combattre nos peurs. J'ai fait mon armée, mon service militaire dans l'armée de l'air, et pendant l'année où j'y étais, il y a eu plusieurs crashs d'avions, et on a été appelés pour ramasser des morceaux. Et chaque fois qu'il y a eu un crash d'avion, tous les pilotes de l'escadron devaient revoler dans la journée. Pourquoi ? Parce que la peur se développe dans nos pensées. Elle est irrationnelle. Nos pensées focalisent sur ce qui pourrait arriver de façon totalement improbable, au lieu de focaliser sur les choses réelles et sur celles que l'on sait. Les pilotes revolaient pour vaincre immédiatement cette peur, parce que s'ils ne le faisaient pas immédiatement, l'appréhension allait grandir dans leur cœur. Maintenant, j'aimerais essayer d'évoquer un peu comment vaincre nos peurs, la victoire sur nos peurs. Il nous faut confronter nos peurs. Parce que si nous ne les confrontons pas, elles demeurent et elles augmentent. Si nous confrontons nos peurs, progressivement, elles disparaissent. Mes filles étaient cynophobes. Vous avez compris, elles avaient peur des chiens. Elles ne sont pas encore totalement guéries. C'est une peur héritée de leur mère, ceci dit en passant. Un jeune est venu habiter chez nous avec son chien. Eh bien, c'était un petit chien tout mignon. Elles ont vaincu progressivement leur peur de cette bête féroce pour finalement être toujours à jouer avec lui, à lui tripoter les oreilles et tout ce qu'ils aiment, quoi. Pour vaincre la peur, il faut la confronter. Et le problème, c'est qu'on est terrorisé par la peur. Il n'y a rien qui nous pousse à aller au-devant de nos peurs. Et c'est pour cela que l'on a besoin de revêtir des armes. Et les armes de Dieu. Dieu nous a donné des armes pour vaincre nos peurs. Et j'aimerais en voir 4 ou 5. La première arme, je pense tellement importante, c'est la justification, la justice que Dieu nous donne. Nous avons dit que l'origine principale de la peur, c'est le péché. Adam s'est caché parce qu'il avait peur d'être découvert par Dieu. La peine pour le péché, c'est la mort. Alors nous vivons avec cette crainte de la mort. Or Dieu veut nous délivrer de cette peur, de cette angoisse de la mort. Il veut que nous reconnaissions notre état. Et il a pourvu dans un moyen de salut. L'œuvre de Christ nous délivre de nos péchés et de ses conséquences. J'aimerais vous montrer un verset. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 14. On trouve ce même verset dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Mais en Marc 14, le verset 33 dit ceci. C'est ce moment où, après avoir institué la Pâque, la scène avec ses disciples, le Seigneur s'est rendu dans le jardin de Gethsémané Et il est dit ici, verset 33, Marc 14, 33, « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean pour prier. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. » L'expression ici est très forte. Il a expérimenté, il a éprouvé de la frayeur et des angoisses. On a dit, Jésus est sans péché. Et c'est les péchés qui engendrent la peur. Jamais on a vu Jésus avoir peur. Quand il était dans le bateau avec les disciples étaient affolés, lui, il dormait. Il n'avait aucune crainte. Mais ici, Jésus connaît des frayeurs pour la première fois et des angoisses. Et ces frayeurs et ces angoisses proviennent du jugement qui va l'atteindre. Ce jugement du péché qui va le frapper. Pourquoi ? Le Seigneur est en train de prendre tous nos péchés et de les porter sur Jésus-Christ. Et lui donc subit cette angoisse que nous avons. Et il va mourir, jugé pour nos péchés, condamné à cause de nos fautes. La Bible dit que si nous croyons dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il a porté nos péchés et il a porté nos peurs, nos angoisses, nos frayeurs par rapport à la mort, par rapport au jugement, par rapport au fait d'être découvert. Pourquoi ? Parce qu'un jour, on est venu simplement devant lui en disant, « Seigneur, je suis cet homme méchant, ce pécheur qui a fait telle et telle chose pour lesquelles tu es mort, pour lesquelles tu as offert ton sang en sacrifice. » Le sentiment d'effarement et de terreur que Jésus connaît, c'est dans la perspective effrayante de la colère de Dieu contre notre péché. Il nous déclare juste. Dieu nous déclare juste à cause de Christ. De sorte qu'on peut se présenter devant les hommes et devant Dieu avec une pleine assurance, délivré de la crainte de la mort. Saül était terrorisé parce qu'il avait rejeté l'Éternel juste avant. Il était terrorisé quand il a vu ce géant parce qu'il avait, à cause de ses désobéissances. Par contre, lui, David, avait de l'assurance parce qu'il se savait justifié, déclaré juste par Dieu. Regardez ce proverbe 28, verset 1, il dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. » Le juste, comprenez, puisqu'il n'y a pas de juste sur la terre, comprenez, le justifié, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ et qui a reçu sa justice. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Eh bien, David, c'est un jeune lion ici. Vous avez déjà vu un jeune lion et il est haut comme ça, c'est un chat, et puis il est là à se tenir devant toutes les menaces possibles. Il y a des chasseurs avec un fusil, et lui il est là, tentant de les effrayer. Eh bien c'est cette justice-là, c'est cette assurance-là que produit la justification, c'est-à-dire la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui a porté nos péchés et qui impute sa justice à nos cœurs. Une deuxième arme pour vaincre nos peurs, c'est la connaissance de Dieu. David connaissait son Dieu. Il le connaissait non seulement d'une manière intellectuelle, parce qu'il avait certainement lu les Écritures. Il le connaissait surtout d'une manière expérimentale. Il avait déjà connu de telles batailles. Il avait déjà vu l'intervention de Dieu dans sa vie quand il avait dû combattre contre l'ours ou contre le lion. Et c'est cette expérience-là cette connaissance de Dieu, de son Dieu, qui l'a fortifié pour aller combattre contre Goliath. Il avait déjà vu le Seigneur le secourir. Il connaît son Dieu. Il sait qu'il ne le laissera pas insulter plus longtemps. Il connaît les promesses de Dieu. J'ai pensé que peut-être il connaissait celle-ci qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 20. Je lis un verset 1, Deutéronome 20, verset 1. Dieu dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Et je lis aussi au verset 3, « Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Qu'est-ce qui vous terrorise? Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui? Quelles sont les peurs que vous nourrissez? Dieu n'est-il pas plus grand que vos peurs? Dieu est-il impuissant? Est-il incapable de vous délivrer? David, lui, on a voulu l'équiper de toute une armure, toute l'armure de Saül. Il a dit non, moi je vais monter au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, ça signifie la personne de l'Éternel. Quand Goliath l'a vu, il dit, mais au début, il a dû se dire, il doit être très très loin. Et puis, plus il se rapprochait, le bonhomme ne grandissait pas. Il s'est dit, mais pourquoi ils envoient un enfant avec des bâtons pour me combattre? Et il le méprise tout ce qu'il peut. Et David dit, toi tu viens avec ta lance, ton épée, etc. Moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec la présence de l'Éternel à mes côtés. T'as intérêt à trembler. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon gars, qui dois avoir peur. Parce que moi, j'ai le Seigneur avec moi. Et on devrait réfléchir comme cela. Quand on doit affronter nos peurs, est-ce que Dieu est avec nous? On devrait s'assurer, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec moi, selon sa promesse, alors, je n'ai rien à craindre. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. C'est tellement important de connaître son Dieu. Un Dieu qui gouverne dans le ciel et sur la terre. Ça signifie que rien de ce qui peut nous arriver n'échappe à son contrôle. Dieu ne fait pas de sieste. Il ne peut pas être surpris par quelque chose. Rien ne lui échappe. Il n'est jamais en vacances. Et si une chose vous atteint, il la permet. Et peut-être elle vous fait souffrir et lui dit, « Moi, je recherche ton bien. » Et c'est ça qui doit nous rassurer. Dieu est à nos côtés, il poursuit notre bien, il dirige notre vie. On a besoin de repasser sur nos cœurs toutes les promesses de Dieu. Vous vous inquiétez peut-être pour le lendemain, de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. David dit dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. » Et je n'ai point vu le juste, encore une fois, le juste, celui qui est justifié, abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si nous connaissons notre Dieu, si nous connaissons sa bonté, sa puissance, sa sagesse, alors nous savons qu'il accomplit ses desseins. Lorsque le monde chancelle, lorsque tout est tourmenté, La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à transporter les montagnes. Dieu est là, Dieu est vivant, et Dieu dirige, Dieu gouverne. » Quelqu'un a dit, j'aime cette idée-là, « Nous sommes immortels » jusqu'à ce que nous ayons achevé l'œuvre que Dieu nous a commandé de faire. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Nous sommes entre les mains de notre Dieu. La troisième arme qu'il nous faut prendre, c'est la foi. Parce que si on a une connaissance de Dieu, mais que finalement on ne s'en empare jamais véritablement, Israël était terrorisé à la vue du géant. On a peur de ce qu'on voit. On a peur des choses, des situations. Mais la foi, elle, s'appuie sur ce qu'on ne voit pas. Le peuple voyait les Philistins. David voyait Dieu dans sa gloire, voulant relever son peuple. Il dit dans le psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. En toi je me confie. » Saül voulait que David porte ses vêtements, sa cuirasse et ses armes, mais il s'en débarrassa pour placer sa confiance en l'Éternel seul. Il est allé combattre avec ce qu'il avait sur lui. Il avait une gypsière parce qu'il était berger où il mettait toujours quelques bricoles dedans. Il est parti avec ça. Il avait une fronde. Il est parti avec ça. Avec sa fronde et un seul caillou. Et une confiance dans le Seigneur, il a terrassé le géant. Quand on a la connaissance de Dieu, on devrait revêtir une autre arme. Et cette autre arme, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un a dit, la crainte de Dieu est celle qui supprime toutes les autres. Vous allez toujours craindre. Soit vous allez craindre Dieu et vous ne craindrez rien d'autre, soit vous allez tout craindre, mais vous ne craindrez pas Dieu. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Saül n'avait pas eu de crainte de Dieu pour obéir à sa voix. À plusieurs reprises, Samuel dénonce l'infidélité de Saül. Il dit, Dieu t'a rejeté parce que tu lui as désobéi, parce que tu n'as pas eu la crainte de Dieu. Dans la loi, il est dit, vous savez, quand après avoir donné toute la loi, il donne les bénédictions à ceux qu'obtiendront ceux qui cherchent à suivre la loi, et ceux qui s'en détourneront seront frappés par de malédictions. Dans les malédictions qu'il donne, il dit « Je rendrai votre cœur pusillanime », c'est-à-dire peureux, qui est terrifié aux moindres choses. Si vous vous détournez de Dieu, vous serez peureux. Si vous craignez Dieu, cette crainte, ce respect que vous avez pour Dieu, alors vous serez courageux, fort. Saül n'a pas craint Dieu, alors il a craint les hommes. La dernière arme dont il nous faudrait nous revêtir, et elle est tout à fait similaire à la crainte, c'est l'amour. Bizarre, hein? Mais l'amour de Dieu chasse la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 18. Reprenons le cas de cette femme qui a tellement peur des souris. C'est quelque chose, c'est une phobie, ça la terrorise dès l'instant qu'elle en voit une. Cette fois-ci, elle entre dans la chambre où dort son petit enfant. Et il y a plusieurs gros rats. qui sont en train de tourner autour du berceau. Est-ce qu'elle retourne monter sur la table de la cuisine? Elle prend la première chose qu'elle a sous la main. Et puis elle va combattre. Elle va terroriser les rats. Pourquoi? Parce qu'elle aime son enfant. L'amour bannit la crainte. L'amour est la force qui domine la peur. Objectivement, David aurait dû être terrifié par Goliath. Mais son amour pour Dieu, son amour pour son nom, son amour pour son peuple, Israël, dont il est roi, il a été oint déjà au chapitre 16, chapitre précédent. Il a déjà un amour pour ce peuple. Alors cet amour-là l'a rendu fort. Et on bannit toute crainte de son cœur. Vous avez peut-être peur des araignées, mais si vous aimez Dieu, si vous aimez son peuple, si vous aimez son évangile pour le faire connaître au monde qui périt, si vous aimez les gens, si vous avez de la compassion pour eux, pour ceux qui meurent sans Christ, alors vous serez prêts à surmonter vos peurs des bêtes à huit pattes. Même s'il vous fallait partir en pleine forêt tropicale. Si vous avez peur de l'avion, vous serez prêt à prendre l'avion dès l'instant où il faut servir Dieu. L'amour bannit la crainte. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, chasse la crainte. Je ne sais pas quelles sont les peurs qui peuvent vous envahir. On se sent menacé de diverses manières. Je vous rappelle, il y a des peurs pour tout. La liste est... c'est des pages. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est: suis-je équipé pour vaincre mes peurs? Suis-je prêt à les combattre? Suis-je prêt à y faire face avec courage parce que je suis revêtu de la justice de Jésus-Christ? Parce que j'ai placé ma confiance en lui. Est-ce que vous connaissez Dieu? Ce Dieu grand, fort, puissant, ce Dieu souverain, ce Dieu qui vous aime, ce Dieu infiniment sage. Est-ce que vous avez foi en lui? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à vous confier dans ce Dieu que vous ne voyez pas, plutôt que dans les choses visibles de ce monde? Est-ce que cette connaissance vous remplit d'une crainte respectueuse pour votre Dieu? Cette crainte qui vous tient éloigné du péché, ce désir de ne pas lui déplaire, ce désir au contraire de lui être agréable en toute chose. Et si chute il y a, de venir à lui, demander pardon et retrouver une pleine communion avec lui. Est-ce que vous êtes animé de l'amour de Dieu? Cet amour qui chasse toutes les craintes. L'amour qui saisit à bras le corps la main de son Dieu et toutes les armes pour aller lutter contre toutes les craintes. Richard Wurmbrand, vous connaissez son histoire, hein, il a écrit plusieurs livres bouleversant, il a été victime des persécutions pendant qu'il était pasteur en Roumanie. Richard Wurmbrand, dans ses prisons, c'était terrible parce qu'on mettait une pression affreuse sur les chrétiens. Il y avait des tortures physiques, mais il y avait beaucoup de tortures aussi psychologiques. Et on remplissait leur cœur de crainte, de menaces par rapport à sa femme, par rapport à son église, par rapport à lui-même. Et un jour, il s'est souvenu que l'expression « ne crains pas » et toutes les équivalents revenaient 366 fois dans la Bible. Il a dit une fois pour chaque jour. Et même Dieu a prévu les années bissextiles. Et il a dit, ce jour-là, c'était un 29 février. Il dit, je remercie qu'il y en a eu 366 fois. Ne crains pas. Chassez la crainte. Ne crains pas. C'est un ordre du Seigneur. Faites face à ce qui peut vous menacer avec la justice de Dieu, avec sa connaissance, avec la foi, avec la crainte de votre Dieu et avec l'amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage.